Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Tripoli, le dernier combat de Yasser Arafat. En décembre 1983, le leader de l'OLP se retrouve pris au piège dans la ville de Tripoli, au nord du Liban donc, assiégé par l'armée syrienne, les navires israéliens, les phalanges chrétiennes libanaises et surtout une partie des dissidents palestiniens de son propre mouvement. Celui qu'on appelle le vieux, qui lutte depuis tant d'années pour une cause, la reconnaissance du peuple et de l'État palestinien, n'a jamais paru aussi esseulé. Cet événement nous plonge au cœur du conflit israélo-palestinien et plus généralement dans les troubles du Proche-Orient. Un théâtre à plusieurs scènes, sur le terrain la guerre, ses affrontements, ses morts et ses blessés. En coulisses, la diplomatie, les négociations, la défense des intérêts et la recherche des équilibres. Plusieurs scènes également, avec plusieurs acteurs. Les États-Unis de Reagan, la Syrie d'Hafez al-Assad, Israël de Begin, puis Jamir, et la France de François Mitterrand qui joue dans cette affaire un rôle de premier plan. Ainsi, Tripoli en 1983 représente-t-elle un point de bascule essentiel du conflit israélo-palestinien, un moment particulier où dans un même mouvement, les solutions envisagées pour la paix s'éloignent pour n'être validées que plusieurs années plus tard, d'où cette impérieuse nécessité à l'époque, pour François Mitterrand en tout cas, de sauver le soldat Arafat. Un conflit sur lequel nous reviendrons en seconde partie d'émission avec Alain Grèche, directeur du journal en ligne Orient21.info, spécialiste du Moyen-Orient. Il vient de publier Un champ d'amour, une bande dessinée sur les relations de la France avec Israël et la Palestine. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Beyrouth, Liban, été 82. Depuis 7 ans, le pays est plongé dans la guerre civile. Symbole tragique de cette division, sa capitale. À l'ouest, les musulmans, à l'est, les chrétiens. Depuis 7 ans, les phalangistes de la droite chrétienne affrontent les forces de gauche musulmanes et les fedaïnes de l'OLP dirigées par Yasser Arafat. C'est au Liban que ces derniers ont trouvé refuge en 1970, après avoir dû fuir la Jordanie, chassée par le roi Hussein, épisode baptisé Septembre Noir. Aidés financièrement par les pays du Golfe, soutenus par les millions de réfugiés palestiniens disséminés dans des camps à travers tout le pays, dotés d'une puissance militaire et de soldats organisés et entraînés, les Palestiniens représentent un véritable État dans l'État au Liban et attisent, au fil des années, haine et rancœur chez une partie de la population libanaise, comme ce fut le cas auparavant en Jordanie. Dès 1975, Yasser Arafat engage ses troupes dans le conflit libanais dans lequel s'impliquent rapidement les États voisins. La Syrie d'Assad intervient dès 1976, d'abord contre les forces de gauche musulmanes, ensuite en soutien de l'OLP. Au sud, l'armée israélienne multiplie les incursions au Liban pour neutraliser les fedaïnes qui ciblent par des tirs de roquettes les villages du nord de l'État hébreu. En 1982, face à ces attaques sur son territoire, Israël obtient l'aval des États-Unis pour envahir une partie du Liban. Menachem Begin, le Premier ministre, et Ariel Sharon, le ministre de la Défense, lancent l'opération dite « Paix en Galilée ». Alors qu'elle doit se limiter dans le temps et dans l'espace, Tsahal progresse et atteint rapidement la capitale, Beyrouth. L'objectif de Menachem Begin est de détruire l'OLP et d'éliminer son dirigeant, Yasser Arafat. Pendant des semaines, Beyrouth-Ouest est ainsi assiégé, bombardé, jour et nuit. Les blessés, les morts se comptent rapidement par milliers. Face à l'escalade de la guerre, François Mitterrand, le président français, est interrogé sur France 2 en juillet 82.
La politique de la France réprouve toute intervention d'un pays dans les affaires d'un autre. Et a fortiori, toute intervention violente, toute intervention militaire. Et le propre des interventions militaires, lorsqu'elles rencontrent une résistance, c'est de provoquer, comme vous dites, des oradours. Pas plus que je n'ai accepté l'oradour provoqué par l'occupation allemande en France. Pas plus, je n'accepterai les oradours, y compris à Beyrouth.
Au poids des mots s'ajoute la force des images, celle des bombardements de ces hommes, femmes et enfants encerclés, bloqués à l'intérieur d'une ville en ruine. Au milieu d'un siège qui s'installe dans la durée, Yasser Arafat, qui échappe à plusieurs reprises aux attaques ciblées de l'armée israélienne, donne des interviews, communique, motive ses troupes. le leader de l'OLP, le C, ce siège place sur le devant de la scène médiatique la cause palestinienne. À un moment où il se sait isolé, lâché de toutes parts, car le président syrien Assad a signé une trêve avec Israël et le président libanais El Yasser qui s'engage à expulser l'OLP du pays. Dans les coulisses diplomatiques également, la tension monte à mesure que l'opinion change. Pour la première fois, Israël est vu du côté occidental non plus comme l'agressé, mais comme l'agresseur. Pour François Mitterrand, qui se sent trahi par Menachem Begin après le non-respect des limites de l'intervention, il faut à tout prix éviter l'invasion de Beyrouth Ouest par l'armée israélienne. Le symbole et le traumatisme éloigneraient encore un peu plus la perspective d'une paix dans la région. Les Français soutiennent même qu'une sortie de Yasser Arafat avec les honneurs pousserait le leader palestinien à abandonner les armes pour la voie diplomatique. Et là est bien la clé de toute cette histoire. Après d'âpres négociations, Washington et Paris font accepter aux belligérants l'évacuation des combattants palestiniens et de leurs dirigeants par une force multinationale. La veille de son départ, Yasser Arafat traverse Beyrouth Ouest pour saluer une dernière fois ce peuple et cette ville qui ont accueilli son mouvement pendant 10 ans et qui ont vécu auprès de lui ce terrible siège de 3 mois.
Mais que ressentez-vous en quittant Beyrouth ?
Il suffira de me rappeler les enfants de Beyrouth et le peuple qui s'est battu avec moi contre cette agression, cette invasion. Et cela me donnera plus de détermination, plus de force pour continuer la lutte avec mon peuple.
Pensez-vous que cette bataille vous a donné des gains politiques dans le monde ?
Vous savez, il y a une nouvelle étape pour continuer cette lutte. Des méthodes politiques à travers la presse et à travers la résistance.
Août 1982, port de Beyrouth. Sur le ponton du bateau Atlantis, entouré des pavillons américains et français, Yasser Arafat, le bras levé, adresse le vœu de la victoire aux dirigeants libanais et aux Palestiniens venus lui rendre un dernier hommage. De nouveau, l'homme au kéfier prend la route de l'exil et s'éloigne de cette terre, la Palestine, dont il a fait le combat d'une vie, de sa vie. Alors qu'il se dirige vers Tunis, il se dit, comme de nombreux observateurs d'ailleurs, que cette défaite militaire est balayée par la victoire diplomatique et symbolique que représente son départ sous protection. Car pour la première fois, les soldats palestiniens ont résisté à l'armée israélienne. Malgré l'exil, le dirigeant de l'OLP s'impose avec son organisation comme seul et unique représentant du peuple palestinien, interlocuteur obligé pour envisager la paix au Proche-Orient. Cette assurance, on la retrouve aussi dans le choix de sa destination, Tunis, et non pas Damas comme on le subodorait. Une décision en forme de rupture. Arafat rappelle ainsi l'absence de soutien de l'armée d'Assad à Beyrouth. En réalité, et Arafat le sait très bien, derrière ce triomphe affiché, il a conscience qu'un départ, ça reste une défaite. Et la sienne est considérable, en vérité. Ses 10 000 combattants, d'abord, répartis à travers 9 pays arabes différents, s'éloignent du champ de bataille et de la terre revendiquée et convoitée, la Palestine. Du côté israélien, Begin et Sharon ont atteint leur objectif numéro 1, que l'OLP ne constitue plus une puissance militaire unifiée, rassemblée et sous commandement direct. Mais quelques semaines après le départ d'Arafat, un événement saisit d'effroi le monde entier.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Paroxysme de la furie des hommes, le Proche-Orient, les haines et les passions qu'ils suscitent. Cet épouvantable massacre dont l'horreur grandissait de minute en minute à mesure que nous recevions les dépêches, il y a quelques heures, des dizaines, sans doute même des centaines d'assassinats d'hommes, de femmes et d'enfants dans 2 camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth Ouest. Assassinats vraisemblablement perpétrés, selon les premiers témoignages, par les milices dites chrétiennes du commandant Haddad, allié des Israéliens dans la guerre du Liban.
Dans le camp palestinien, la tragédie de Sabra et Shatila réveille des divisions nées au moment du départ d'Arafat. Abandonnés à eux-mêmes, plusieurs milliers de fedayines appartenant pour la plupart aux différents groupes radicaux de l'OLP, notamment le FPLP, le Front démocratique pour la libération de la Palestine, de mouvances marxistes-léninistes sous la direction de Georges Habash, mais aussi Al-Saïka, faction militaire palestinienne créée et contrôlée par la Syrie, et même certains membres de la direction du Fatah. Et bien tout cela n'ont pas quitté le Liban. Ils se sont réfugiés dans la plaine de la Bekaa et dans le nord du Liban, autour de la ville de Tripoli. Ces derniers vivent mal le choix d'Arafat. Selon eux, il fallait se battre jusqu'au bout dans Beyrouth. L'objectif de l'OLP doit rester le même, la libération de toute la Palestine. Aucune négociation n'est possible avec Israël. Le drame de Sabra et Shatila le prouve, disent-ils. Or, Arafat donne l'impression de s'avancer vers une reconnaissance de l'État hébreu. On voit dans son départ, répétons-le, un abandon du peuple palestinien, en même temps qu'un renoncement à l'idéal poursuivi, récupérer la totalité des territoires palestiniens. Georges Habash, à la tête du FPLP, explique cette opposition au chef de l'OLP.
En tant que Front populaire de libération de la Palestine, nous considérons Arafat comme le responsable de ce que vit la scène palestinienne dans ces moments. La ligne politique confuse et hésitante qu'a pratiquée Arafat, surtout après notre départ de Beyrouth, ajoutez à cela sa méthode individuelle de direction de l'action palestinienne, toutes ces raisons ont conduit à la situation dangereuse que vit la révolution palestinienne.
Depuis Tunis, le leader ne fait rien pour les rassurer. Prince de l'équivoque et de la synthèse, Arafat essaie de concilier les contraires, que ce soit vis-à-vis des États impliqués dans le conflit ou au sein de son propre mouvement. Mais là, éloigné de ses hommes, éprouvé par le temps, sa science du compromis s'épuise. Si le 16e Conseil national palestinien, qui se tient à Alger en février 1983, confirme apparemment sa position à la tête de l'OLP, en coulisses, les discussions sont âpres. Les dissidents haussent la voix. Selon eux, il suffit d'ailleurs de se pencher sur le traité de paix entre Israël et le Liban pour constater que la stratégie d'Arafat est un échec. Autrement dit, les États-Unis valident des conditions imposées par Israël, inacceptables pour la ligne dure de l'OLP. Et de ces dissensions, un homme compte bien profiter, Hafez al-Assad, le président syrien. Son objectif depuis des années est de placer l'OLP sous sa coupe. Pour lui, la cause palestinienne est une cause arabe. Il ne supporte donc pas l'incarnation de ce combat par Arafat et encourage l'opposition interne. Il ne manque plus que l'étincelle. Eh bien, elle arrive. Coup sur coup, Arafat promeut deux personnalités controversées à des postes importants. Les dissidents palestiniens y voient une manifestation supplémentaire de son autocratisme. Alors, la rupture est inévitable et le terrain libanais, toujours plongé dans la guerre civile, devient le théâtre d'un nouveau conflit.
Au Liban, les guerres de factions qui secouent les Palestiniens sont à nouveau illustrées par ces images que vous allez voir. On y voit les forces loyalistes du Fatah, c'est-à-dire la principale force de l'OLP, assiégée par l'armée syrienne et ses alliés palestiniens dans la région de Baalbek, dans la plaine de la Bekaa. Le siège a commencé hier soir et selon le porte-parole des loyalistes, certains officiers et cadres auraient rallié les forces syriennes sous la menace.
Fin septembre 1983, Tripoli. La barbe rasée, l'habit militaire sagement rangé, c'est en costume et lunettes noires qu'un homme se rend ce jour-là incognito dans la grande ville portuaire du nord du Liban. Un an après le siège de Beyrouth, Yasser Arafat est de retour. Un an après, il se trouve de nouveau au milieu d'un siège. Mais cette fois, il se jette volontairement dans la nasse. La ville est encerclée par une coalition hétéroclite. 12 000 soldats syriens, 10 000 rebelles palestiniens conduits par Abu Moussa, un dirigeant respecté du Fatah, et un bataillon libyen de 900 hommes. Tous sont unis autour d'un même objectif, faire tomber les derniers fedayines loyalistes de Yasser Arafat. En d'autres termes, détruire la base pour couper la tête. Dès lors, le retour d'Arafat prend de court les dirigeants syriens et les dissidents palestiniens. Personne ne s'y attendait. C'est même lui qui réunit ses derniers hommes à Tripoli. Les quelques 4000 combattants, épuisés, privés de matériel et encerclés, sont soutenus par les milices islamistes locales, farouchement opposées au président Assad. Alors pourquoi Arafat retourne-t-il de son propre chef au cœur d'un champ de bataille là où la défaite est assurée? Eh bien parce qu'il n'a pas le choix. Il a bien essayé quelques mois auparavant en se rendant à Damas de limiter l'enlisement, mais sans succès. Alors pour lui, c'est la dernière option. D'abord sur le plan militaire, pour remobiliser ses troupes et garder le contrôle d'une partie des structures de l'Organisation de Libération de la Palestine au Liban. Ensuite, sur le plan symbolique. Comme à Beyrouth un an auparavant, il veut renouer avec la geste héroïque de l'homme seul, face à tous. Par sa seule présence, en effet, il oblige les Syriens et le président Hafez al-Assad, en premier lieu, à sortir de l'ombre. S'il montre que c'est l'État syrien qui est derrière les dissidents, il discrédite ces mêmes mouvements et il se replace comme seul représentant légitime de la résistance palestinienne. Dans le camp de réfugiés d'Al-Badawi, aux portes de Tripoli, Arafat défend ainsi sa démarche, comme l'explique l'envoyé spécial d'Antenne 2.
Le leader de l'OLP explique qu'une division syrienne mécanisée a commencé à entrer au Liban cette nuit, ainsi qu'une brigade supplémentaire. Toutes ces troupes syriennes, dit Yasser Arafat, prennent position autour de la ville pour en couper tous les accès. La guerre est donc ici de nouveau à l'ordre du jour. Ce matin, les fidèles de Yasser Arafat ont installé leurs canons au cœur même de la ville, sur de nouvelles positions. Pendant l'accalmie, les camions de munitions ont circulé dans Tripoli. Pour l'instant, Yasser Arafat ne quitte pas le pays, il ajoute même avec le sourire « Personne ne me l'a demandé ». Et il a évidemment raison, puisque tout est en place pour un nouveau round.
Les obus abattent par milliers. Depuis son QG, dans une avenue de Tripoli, Yasser Arafat dirige les opérations. 200 mètres plus loin, il y a le port. À l'horizon, le chef palestinien peut apercevoir les vedettes israéliennes et syriennes qui empêchent toute fuite par la mer. Tripoli tient, oui. Mais pour combien de temps? À longueur d'interview, le chef de l'OLP annonce pour galvaniser ses troupes « Je vais m'arrêter ici pour mourir avec mon peuple ». Comme à Caramel il y a 15 ans, lorsqu'avec quelques centaines d'hommes, il avait mis en échec l'armée israélienne. Comme à Beyrouth il y a un an, Yasser Arafat reprend ses habits de combattant au cœur de la bataille. Et la stratégie fonctionne. Dans les territoires occupés, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, la population affirme son soutien aux assiégés. Les réfugiés du camp de Yarmouk à Damas se révoltent à leur tour contre le régime syrien. Les dissidents de l'OLP perdent peu à peu leur légitimité. Le reporter Yves Loiseau les rencontre.
En me faufilant au milieu des batteries syriennes, j'ai réussi à passer chez les dissidents et à rejoindre le camp de Nahr el-Barret, à 8 km au nord, tombé dimanche aux mains d'Abou Moussa. Un porte-parole des dissidents m'a fait part des intentions des adversaires de Yasser Arafat.
Nous ne voulons pas attaquer Tripoli, mais
est-ce que vous accepteriez qu'Arafat s'en aille avec les combattants qui sont avec lui en ce moment?
Nous sommes d'accord avec Arafat s'il veut partir de Tripoli avec ses compagnons. Mais nous ne pensons pas qu'il va partir. Nous pensons qu'il va rester à Tripoli. Et s'il ne veut pas sortir, ça va faire une attaque entre les deux parties.
Malgré la résistance et le soutien d'une partie des Palestiniens, jour après jour, dans les quotidiens syriens ou israéliens, on annonce la mort de Yasser Arafat, de plus en plus isolé à l'intérieur de son propre camp, mais aussi à l'extérieur. Sur le plan international, ni du côté des pays arabes usés par l'OLP, ni du côté occidental, où les États-Unis de Reagan, qui soutiennent la politique israélienne, ne sont disposés à aider le vieux leader palestinien. Cette fois, l'étau se referme sur Arafat. Mais une fois encore, comme un an plus tôt, c'est du côté de la France et du président François Mitterrand que le leader de l'OLP trouvera le salut.
الجميلات قوية يأسا يضيء ولا يحتاج. مثل أغاني
À tous, je dis qu'un pays est grand par sa force d'âme, par sa résolution, comme par les amitiés et le respect qu'il mérite. C'est pourquoi au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. En défendant, là comme ailleurs, ces principes d'indépendance nationale et d'équilibre des forces dans le monde, la France ne défend pas autre chose que la paix.
Octobre 1983, Paris. De retour de Beyrouth, François Mitterrand rend hommage aux 42 soldats français tués dans l'attentat suicide qui a visé les contingents de la force multinationale présente au Liban. La tragédie rappelle que la France est toujours présente au Liban un an après être intervenue sous l'égide de l'ONU pour faire respecter le cessez-le-feu et évacuer Yasser Arafat. Un rappel aussi de la guerre qui continue dans ce pays. Fin octobre, début novembre, la communauté internationale se saisit de nouveau de la situation libanaise. Mais Tripoli n'est pas à Beyrouth. Et Arafat, qui compte faire de la mobilisation internationale pour la cause palestinienne un atout politique, ne parvient pas à attirer autant l'attention sur ce deuxième siège en deux ans. Côté américain, Reagan ne voit pas pourquoi il sauverait deux fois un homme et une organisation qu'il ne reconnaît pas. Pourtant, sur place, la situation s'enlise, de jour en jour. Les camps de réfugiés d'Al-Badawi et de Nahr al-Bared, aux avant-postes de la ville, sont tombés. Et le bilan est lourd, près de 1000 victimes. Et c'est la France, comme à Beyrouth un an plus tôt, qui lance les négociations. Après l'attentat contre les soldats français, même François Mitterrand n'est pas persuadé de vouloir sauver Yasser Arafat. C'est son ministre des Relations extérieures, comme on disait à l'époque, Claude Cheysson, qui le convainc de reprendre l'initiative. Il est animé d'une certitude. Le leader palestinien et l'OLP constituent la voie la plus sûre pour parvenir à un accord de paix au Proche-Orient. Selon lui, Arafat a déjà montré des signes d'avancée manifestes. Alors il faut à tout prix préserver cette option, et c'est bien ce qu'il exprime devant le Sénat.
Il est particulièrement impressionnant d'avoir à le dire aujourd'hui, alors qu'à Tripoli, je viens de le rappeler, une organisation est menacée dans son existence même, organisation dont la disparition ne choquerait pas seulement la conscience universelle, mais représenterait un recul très grave dans la possibilité demain d'une négociation dans cette partie du monde, négociation où le peuple palestinien devra pouvoir s'engager. Et je vous demande, qui pourra l'engager si demain plus personne n'a qualité pour parler au nom de tous les combattants ?
Parmi les avancées, un entretien secret quelques semaines plus tôt entre Farouk Kadoumi, haut placé dans la hiérarchie de l'OLP, et Hosni Moubarak, le président égyptien. Ce dernier aurait donné son accord pour que le siège de l'OLP soit transféré de Tunis au Caire. Voilà donc Arafat, prêt à s'installer dans le pays arabe qui a signé à Camp David la paix avec Israël. Le signe envoyé témoigne en tout cas d'une volonté d'avancer sur le terrain diplomatique. Pour les Français, il faut absolument soutenir cette démarche et Arafat sait que son meilleur atout se trouve à Paris.
La France peut jouer un rôle extrêmement important dans cette crise du Moyen-Orient. Je me souviens encore lorsque je refusais de quitter Beyrouth si ce n'était sous la sauvegarde de la France en premier. Et ils ont essayé de me dire non, pas les Français en premier. J'ai dit si, si, les Français en premier. Pourquoi ? Parce que je donnaient ce rôle très important à la France dans cette zone, ce faisant. J'espère que le gouvernement français reprendra cette initiative devant le Conseil de sécurité, car c'est très important.
Pendant ce temps, sur le terrain à Tripoli, les hommes d'Arafat lancent une contre-offensive sur le camp de Badawi pour reprendre la partie sud. Fort de ce succès, le chef de l'OLP participe à la prière de la mosquée du camp repris. Mais la riposte syrienne ne se fait pas attendre, Badawi est bombardé sans interruption. Sur la scène diplomatique, les représentants de l'OLP à Paris insistent auprès de la France pour qu'elle intervienne à l'ONU. Le représentant français aux Nations Unies demande la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et la France, l'Égypte, la Jordanie et l'Algérie soutiennent un texte qui appelle à un cessez-le-feu au Nord-Liban. La résolution 542 qui demande l'arrêt des hostilités est votée le 23 novembre. Évidemment, ce nouvel engagement de la France pour l'OLP est largement critiqué par Israël. François Mitterrand et Claude Cheysson le savent, il faut absolument redorer leur image et surtout ne pas rompre les liens avec l'État hébreu. Alors, en coulisses depuis plusieurs mois, Claude Cheysson et ses équipes concrétisent un échange qui envoie un signe positif.
Un notable palestinien a résumé cette journée par ces mots « C'est la première fois qu'Israéliens et Palestiniens se réjouissent du même événement. L'hélicoptère qui a amené les 6 prisonniers israéliens libérés par l'OLP a fait souffler un vent d'optimisme qu'Israël et les familles amenées sur la piste par l'armée n'avaient pas connu depuis la guerre du Liban. Le prix de l'échange, pour Israël, c'est la libération de plus de 4000 prisonniers palestiniens. Le camp de détention d'Al-Ansar au sud-Liban n'est plus qu'un mauvais souvenir. Une centaine de Palestiniens, condamnés à de lourdes peines et détenus dans les prisons israéliennes, ont marché vers une liberté inespérée.
Désormais, la question reste celle de l'évacuation d'Arafat et de ses fédayines du siège de Tripoli. Le chef de l'OLP en a envoyé la demande officielle à l'ONU et à New York. Le secrétaire général des Nations Unies répond favorablement à la requête palestinienne. On invoque la raison humanitaire. La France et la Grèce proposent de mettre leurs navires à la disposition de l'ONU pour sortir les soldats palestiniens. Bien que l'accord d'Israël ne soit pas nécessaire à l'exécution de l'opération, François Mitterrand avertit quand même ce pays. Mais le 6 décembre, un nouvel élément vient retarder l'évacuation.
Un attentat sanglant à Jérusalem ce matin a ravivé la confrontation entre Israël et l'OLP. Une bombe a explosé dans un autobus municipal, tuant 4 personnes et en blessant une cinquantaine. Et l'OLP a revendiqué l'attentat.
La réponse israélienne ne se fait pas attendre. 3 jours plus tard, la marine bombarde les positions palestiniennes de Tripoli. François Mitterrand, pour sa part, hésite à s'engager sur l'opération d'évacuation et la retarde d'une semaine, car il veut à tout prix éviter un incident militaire avec Israël, dont les navires sont aux portes du port de Tripoli. Finalement, rassuré par les différents protagonistes, il opte pour l'opération Exfiltration. Elle s'appellera Anabase. À partir du 16 décembre, une cellule de crise fonctionne en permanence au Quai d'Orsay pour mettre sur pied cette opération. On délimite le nombre d'hommes, le matériel et l'armement que les fédayines seront autorisés à porter au moment de monter à bord. On met en place des règlements spécifiques pour être sûr qu'aucune bavure n'aura lieu entre les navires français et israéliens. Enfin, dans la nuit du 19 au 20 décembre, Yasser Arafat reçoit à 2 reprises les émissaires français venus finaliser avec lui les derniers détails de l'évacuation. Et finalement, le 20 décembre.
Mardi 20, 11h15, il y a à peu près 2 heures maintenant que les 5 ferries grecques sont arrivées et on est en train de procéder à l'embarquement d'un certain nombre de véhicules et de combattants dans un désordre assez inextricable.
L'embarquement des troupes de Yasser Arafat se poursuit depuis le début de la matinée. Nous avons fait cela et qui donne à cette expédition comme une allure de départ en croisière.
Cela fait très exactement 6 heures que l'embarquement est commencé. Et la foule est tellement compacte en bas du bateau que Abou Ammar, Yasser Arafat, est obligé de rentrer en voiture à l'intérieur du ferry.
De Beyrouth à Tripoli, d'un siège à l'autre, à 1 an d'intervalle, Yasser Arafat est évacué du Liban par la mer. Par 2 fois, c'est la France qui, en coulisses, a fait en sorte de sauver les fédayines et leur leader. Cette fois cependant, pas de V de la victoire pour Arafat. Sur l'Odyssée Ouselitis qui doit l'emmener au Yémen, le chef de l'OLP sait que sa position est particulièrement fragilisée. Les combats de Tripoli ne l'ont pas opposé à l'État d'Israël, mais à des dissidents de sa propre cause. Une guerre interne qui trahit en fait sa difficulté à tenir les Palestiniens unis autour de son combat et surtout à faire valider l'option qu'il envisage, celle de la diplomatie, de la négociation et in fine de la reconnaissance de l'État hébreu comme prérequis à ces discussions. Pourtant, Arafat insiste en ce mois de décembre 83. Avant de se rendre au Yémen, il fait une escale en Égypte où il rencontre Hosni Moubarak. Une fois encore, cette initiative personnelle accentue les ruptures au sein de l'OLP. Mais elle ouvre la voie à une nouvelle politique et donc à une possible paix. Pour le moment, un nouvel exil commence. Au Liban, Arafat a mené son dernier combat militaire. Désormais, il va privilégier le rameau de la paix plutôt que le fusil de la guerre. Que ce soit pour lui, comme pour François Mitterrand, les jalons posés dans le sauvetage de Tripoli porteront bientôt leurs fruits. Il faudra attendre 10 ans. Et les accords d'Oslo, une poignée de main historique avec Yitzhak Rabin, illustrera avec la force des symboles cette rupture née à Tripoli.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'évacuation de Yasser Arafat à Tripoli en 1983. Notre invité Alain Grèche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur, ancien directeur adjoint du Monde Diplomatique, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes surtout aujourd'hui directeur du journal en ligne Orient21.info. Et vous venez de publier ce livre que je tiens entre les mains, qui est passionnant, et en même temps passionnant et beau, parce que c'est une bande dessinée avec beaucoup de noir et blanc et aussi de belles couleurs. Voilà, ça s'appelle Un chant d'amour. C'est une bande dessinée sur les relations de la France avec Israël et la Palestine. Et alors, il se trouve que, en quatrième de couverture, vous dites « Le conflit israélo-palestinien est une passion française ». Et c'est vrai que dans ce pays, ici, tout le monde se croit autorisé à avoir un avis sur ce conflit, comme si tout le monde y comprenait quelque chose, alors que la question est si compliquée. Je passe sur les idées reçues, selon lesquelles, par exemple, les Israéliens sont forcément les oppresseurs et les Palestiniens les opprimés, en toutes circonstances, en tout cas depuis 82. Bref, pourquoi autant de passion déraisonnable et comment y répondre, comment apporter un peu de sagesse? par ce genre de livre, déjà. Mais...
Oui, mais bon, d'abord, c'est le...
Il y a un effort pédagogique à faire,
quand même. Oui, il y a un effort pédagogique à faire, mais c'est aussi le conflit qui est présent sur la scène médiatique depuis 50 ans. Mmh. Moi, j'ai été frappé, juin 67, que j'ai vécu, ça a été un débat en France immense, et finalement, personne n'a parlé de cette histoire de 50 ans. Alors, pendant 50 ans, à différents moments, le conflit israélo-arabe, par les guerres, par le problème palestinien, est venu à l'avant-scène, je dirais. En plus, il y a un autre élément, c'est que la France a toujours été proche du Proche-Orient. C'est-à-dire que c'est quand même une zone, ce qu'elle, à travers le Liban, à travers la Syrie, etc., hein, on a une influence. Plus récemment, il y a les plus importantes communautés juives et musulmanes en Europe. Donc tout ça aide effectivement à un conflit qui suscite toujours énormément de polémiques.
Mais ce conflit, rappelons-le, est très compliqué. Il a toujours été très compliqué, alors, notamment pendant les années que nous venons de raconter, notamment au Liban, avec un enchevêtrement de combattants qui servent des causes différentes et qui sont manipulés par des pays comme des marionnettes. Je pense à l'Iran, je pense à la Syrie. Ouais. Là, c'était vraiment très, très, très compliqué. Alors, on va essayer de simplifier les choses, on va essayer de le faire avec le récit. Mais en quoi Yasser Arafat est-il à un moment charnière en 1940? 83, enfin 82, 83.
C'est-à-dire, ce qui est en cause, c'est la survie de l'Organisation de libération de la Palestine. Il faut rappeler que quand les Israéliens envahissent le Liban avec l'opération Paix en Galilée, c'est-à-dire en juin 1982, il y a un cessez-le-feu qui est en place à la frontière libanaise. Donc, c'est pas du tout pour arrêter les tirs palestiniens sur la Galilée, c'est pour liquider Arafat. Ouais. Et non, pour liquider l'OLP et Arafat. On sait que pendant plusieurs jours, il va y avoir délibérément de la part des Israéliens, ils chassent Arafat. Ils vont détruire un immeuble, tuer 150 personnes parce qu'ils pensent que Arafat est dedans. Donc ce qui est en cause, c'est la survie d'Arafat et qui se confond à l'époque, en tous les cas, avec la survie de l'OLP. Les Israéliens sont convaincus que s'ils arrivent à liquider Arafat et l'OLP, ils n'auront plus de problème avec les Palestiniens.
Alors, on comprend le rôle d'Israël et celui d'Hafez al-Assad, donc l'ancien président syrien, le père du président actuel.
C'est-à-dire, il y a dans les années 80, deux acteurs importants arabes, un arabe qui est la Syrie, et un qui commence à jouer un rôle important, qui est l'Iran, depuis la révolution iranienne. Alors là, il y a des tas de raisons. Je veux dire, Assad a une visée hégémonique sur le Liban. Oui. Et de ce point de vue, les Palestiniens sont considérés comme un obstacle. En plus, Arafat s'est toujours battu sur ce qu'il appelait l'indépendance de la décision palestinienne. Donc, Assad pense que non, ça ne lui appartient pas, que l'affaire palestinienne est une affaire arabe, ouais, que c'est au pays arabe, et notamment à lui de la défendre. Donc il y a eu toujours des tensions plus ou moins importantes. Il y a une époque, moi je me souviens avoir participé à des conseils nationaux palestiniens de l'OLP qui se tenaient à Damas. Donc ça n'a pas toujours été ça, mais c'est sûr qu'en 82-83, les tensions sont à leur maximum.
Alors c'est un contexte lié aux administrations des différents pays également. Menachem Begin en Israël, c'est pas ce qu'on appelle, je crois, à modérer.
Non.
Bon, Reagan aux États-Unis, dans une pensée assez simple, on va dire, pas dire simpliste, mais enfin, elle est très manichéenne quand même. Donc c'est lié aussi.
Oui, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, je veux dire, le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien est vu en partie comme un conflit de guerre froide. Les Soviétiques appuyant les Palestiniens et plus généralement les Arabes, et les Américains appuyant Israël. Donc c'est encore une dimension supplémentaire. Mais c'est sûr que la victoire de la droite israélienne en 1977 rend les choses encore plus compliquées, parce qu'on a à la fois un développement de la politique de colonisation des territoires occupés, c'est-à-dire de la Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est, sans précédent, c'est-à-dire des constructions de milliers et de milliers de logements, et une volonté de liquider l'Organisation de libération de la Palestine. Et ça, avec l'appui de Reagan, qui pense que l'OLP, tout ça, c'est des organisations terroristes qu'il faut liquider.
Alors je me disais, pendant le récit, que ça faisait longtemps, finalement, que la France n'avait pas joué un rôle aussi important sur la scène internationale qu'à ce moment-là, hein, parce qu'elle joue un rôle essentiel. On va revenir en arrière. Nous sommes en 1981, et François Mitterrand se rend en Israël. Il prononce un discours devant la Knesset, le Parlement israélien, et rappelons-le, hein, c'est la première visite d'un chef d'État français en Israël. On écoute une archive.
Ai-je accepté l'invitation de messieurs Navon et Begin
de me rendre en Israël, nous voici revenus à mon point de départ. Il n'y a pas pour la France d'interdit, et son devoir est de tenir, et toujours, et partout, un seul et même langage. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie? Parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence.
Alors on le voit bien, François Mitterrand affirme à la fois la relation particulière qu'il entretient avec Israël et en même temps il amorce l'idée d'une reconnaissance de l'OLP et d'Arafat, donc cette doctrine choisie par la France est celle-là. Vous disiez à juste titre qu'il fallait aussi replacer le conflit israélo-palestinien dans ces années-là, dans le contexte global de la guerre froide. Est-ce que la France, là, propose finalement une troisième voie?
Oui, alors ce qui est paradoxal avec Mitterrand, c'est que c'est quelqu'un qui est très proche d'Israël, qui a une énorme empathie pour la pensée juive, pour la religion, qui se sent très proche, vraiment, des Israéliens et plus largement des Juifs.
Et de leur histoire.
Et il ne sera jamais, alors qu'il ne sentira jamais cette empathie à l'égard des Palestiniens. Mmh. Et il est élu dans des conditions assez ambiguës, il faut rappeler en 1981, la partie la plus radicale de la communauté juive, qui est organisée dans une association qui s'appelle Renouveau Juif, organise un grand meeting pour battre Giscard d'Estaing. Et Mitterrand y participe. Donc, il y a chez Mitterrand une espèce de critique de la politique de ses prédécesseurs à l'égard d'Israël.
Et en même temps. Et notamment, j'imagine, de celle du général de Gaulle.
De Gaulle, mais aussi celle de Giscard d'Estaing.
Oui, enfin, c'est quand même le général de Gaulle qui place la France. Voilà. Pas comme allié, mais proche de la cause palestinienne et arabe.
Voilà. Et puis, il y a, disons, dans les 15 ans qui ont suivi 1967, la France a une doctrine qu'elle a fait adopter par tous ses partenaires européens, c'est qu'il n'y a pas de solution possible sans reconnaissance, sans négociation avec l'OLP et sans reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens. Mmh. Mais à partir de ça, je dirais, Mitterrand, il est obligé de tenir compte de cette réalité, mais en même temps, il va en Israël, la première visite d'un chef d'État, et surtout, au début de l'invasion israélienne du Liban, il n'est pas hostile. Il va mettre plusieurs jours à condamner. Il accepte l'idée que Israël a le droit d'aller 40 kilomètres à l'intérieur des terres libanaises pour empêcher les tirs de roquettes. Et en fait, c'est le radicalisme, je dirais, de la politique de Begin, le fait que Begin et Sharon vont jusqu'à Beyrouth et, je dirais, bombardent de manière assez indiscriminée Beyrouth, qui va petit à petit l'amener à prendre conscience que il faut changer un peu, il faut aider l'OLP, et il prend conscience, et je crois que ça c'est vrai, il joue un rôle à ce moment important dans la diplomatie française, c'est qu'il n'y a pas de solution sans l'OLP, et Arafat est le cœur de la solution. C'est-à-dire enlever Arafat, comme certains pensaient, c'est empêcher d'avoir un interlocuteur palestinien.
Oui, mais enfin, est-ce qu'il n'a pas l'impression de prêcher un peu dans le désert, si j'ose dire? Parce qu'il est, Yasser Arafat est isolé, isolé. Donc François Mitterrand soutient un homme qui est déjà isolé.
Il est isolé, il n'est pas isolé. D'abord, il a le soutien des Palestiniens.
Enfin, il est en position difficile.
Il est dans une position très difficile. Mmh. Et c'est vrai que l'expulsion de Beyrouth et puis du Liban fait que pour la première fois depuis 67, il n'y a plus de combattants palestiniens aux frontières d'Israël. D'ailleurs, ce qui va amener quelques temps plus tard, les Palestiniens des territoires occupés a joué un rôle central avec la première intifada. Je dirais, l'OLP va être sauvé en 1986-87 par la première intifada.
Bien sûr.
Mais en même temps, je dirais, l'OLP est... Enfin, je dirais, Mitterrand est conscient qu'il est conscient de deux choses, mais il va réussir que dans l'une des deux. Il est conscient qu'il faut sauver l'OLP, et donc il va permettre le départ des Palestiniens de Beyrouth, mais il est conscient aussi qu'il faut donner un plus politique et diplomatique à l'OLP. Et ça, face à la politique de Begin et à la politique de Reagan, il n'y arrivera pas. Et ce qui explique en partie les difficultés d'Arafat, c'est Arafat a besoin pour convaincre son propre peuple et ses propres gens que la voie diplomatique est ouverte, que les Américains et les Israéliens fassent des ouvertures. Mmh. Or, il faudra attendre 10 ans pour qu'ils le fassent. Et ça, c'est effectivement la faiblesse de la position française, qui n'ose pas non plus, alors bon, on peut le voir autrement, c'est que la France et l'Europe n'osent pas jouer un rôle vraiment autonome à l'égard des États-Unis. Ils pensent que c'est les États-Unis seuls qui ont la solution, que la France et l'Europe peuvent défendre des positions de principe, comme le droit à l'autodétermination des Palestiniens, mais pas agir concrètement. Ouais. Parce qu'agir concrètement, ça veut dire s'opposer aux Américains.
Oui, enfin, ils pensent mal, parce que jusqu'à preuve du contraire, le conflit israélo-palestinien existe encore, bien sûr. Les Américains, enfin, ils ont failli, hein, avec Oslo. Mais on y reviendra. Pourquoi Arafat se remet-il au cœur du champ de bataille, au Liban, maintenant ?
Il se remet au cœur du champ de bataille parce qu'il est face à une opération menée par la Syrie, menée par les Iraniens, menés aussi d'ailleurs par les Libyens, on n'en parle pas beaucoup, mais
la Libye, il y a des hommes libyens,
pour le liquider. Et pour ça, il a besoin de ne pas abandonner ses hommes. Et je dirais, Arafat a une espèce d'instinct comme ça, qui va faire qu'il va résister à Beyrouth et rester à Beyrouth, et qui va rentrer à Tripoli résister, parce qu'il sait que ça mobilise les Palestiniens autour de lui. Mmh. Et comme vous l'avez dit dans la première partie, les Palestiniens des territoires occupés, qui vont devenir l'élément essentiel de l'identité palestinienne, se mobilisent largement pour lui. Et donc, isole totalement les organisations critiques. Alors, dans les organisations critiques, il y a des organisations, je dirais, comme le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui sont des organisations, disons, radicales, mais qui ne sont pas des organisations aux mains de l'étranger, aux mains des Syriens, aux mains des... Et cela, il va réussir, dans une seconde étape, à les gagner. Et il y a ceux qui sont des agents purement et simplement des Syriens et qui ne réussissent pas à gagner. Mais dans cette bataille de Tripoli, malgré la défaite, ce qu'il a gagné et réussi à gagner, c'est la cohésion de l'OLP et le soutien des Palestiniens à sa politique.
C'est le mot politicus, hein, Yasser Arafat. C'est un vrai politique.
Ah oui,
jusqu'au bout des ongles.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, en quoi le rapprochement avec l'Égypte est-il un signe fort envoyé vers une paix possible, je dis ça, puisque c'est l'Égypte qui a signé le premier traité de paix avec Israël. Hein.
Si vous voulez, tout le débat depuis, en gros, la fin des années 70, Arafat et les gens autour de lui ont accepté l'idée qu'il faut un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, et que la destruction de l'État d'Israël est impossible. Voilà, ça c'est quelque chose qui a... Le problème c'est, est-ce que pour les Palestiniens, reconnaître officiellement Israël permet d'avancer dans cette... ça ou non ? En fait, je veux dire, les interrogations d'Arafat sont justifiées. On va voir en 93, au moment des accords d'Oslo, ils vont reconnaître l'État d'Israël. Et puis finalement, au final, ils ne vont rien obtenir. Donc, il y a une interrogation. Il y a aussi le fait qu'il doit tenir compte de l'OLP est d'une certaine manière une force démocratique. C'est avec des courants et le Fatah lui-même. Oui. Donc, il doit tenir compte de tout ça. Le problème, c'est que la communauté internationale, c'est-à-dire globalement l'Union européenne et surtout les États-Unis, ne vont jamais lui donner de garantie que s'il accepte l'existence de l'État d'Israël, il aura un État palestinien.
Alors, il faut rappeler aussi la déclaration de 1988 qui rend la charte de l'OLP, la destruction de l'État d'Israël, caduque.
Caduque, hein, ouais.
Le fameux mot, ouais. Caduque.
Ça, c'est la visite d'Arafat à Paris, invité par Mitterrand. Ça a mis très longtemps, c'est-à-dire dès 82, on parle d'une visite d'Arafat. Et finalement, il va être accepté. Mais si vous voulez, tous ces gestes, pour les gens qui suivent le dossier, tout le monde sait que l'OLP a accepté l'idée des deux États. Enfin, en tous les cas, le cœur central de l'OLP. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils obtiennent en échange de la reconnaissance officielle ?
Voilà. Alors, on va écouter justement une dernière archive. Nous sommes en 1994. Ça va vous rappeler quelque chose, écoutez.
Il appose sa signature sur l'accord, son conseiller lui chuchote qu'Arafat n'a pas signé les cartes. Il appelle Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères. « Qu'est-ce que je fais ? » dit-il. Bref, consultation avec le chef de l'OLP. Et Rabin décide, moi aussi, je ne signe pas. Hosni Moubarak intervient, sans succès. Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, prend la parole et gagne du temps. Alexei Kossirev, le ministre russe des Affaires étrangères, félicite le président Moubarak pour son 62e anniversaire. Christopher en profite pour entrer dans la discussion. Le chef de la délégation palestinienne, Nabil Shat, croyait que tout était terminé, vient parler à Arafat. Personne n'écoute Abou Mazen, le chef des relations extérieures de l'OLP. La cérémonie est suspendue quelques minutes, le temps de persuader Arafat qui revient finalement et signe les fameuses cartes, mais en y ajoutant un texte de sa main. Yitzhak Rabin le fait vérifier par un conseiller et lui aussi signe.
Voilà, 13 septembre 1993, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui le 24e anniversaire de la poignée de main, hein, jour pour jour.
Oui.
Que restait-il des accords d'Oslo, Alain Grèche ?
Je crois qu'ils sont morts. Je dirais qu'un des problèmes de la diplomatie, y compris française, c'est de pas accepter de le reconnaître. C'est-à-dire, le processus, quelles que soient les raisons, ça serait trop long d'expliquer pourquoi il a échoué. Et essayer de le ranimer, c'est, à mon avis, c'est illusoire. D'autant plus qu'on essaye de le ranimer en disant il faut que Palestiniens et Israéliens négocient.
Et
négocie de bonne foi. Le problème, c'est que de bonne foi, Netanyahou et le gouvernement israélien, qui est quand même à la droite radicale, pensent que toute la Cisjordanie, Jérusalem-Est, c'est Israël. Donc de bonne foi, ils défendent leur position. Donc s'il n'y a pas une... Et deuxièmement, le rapport de force entre les deux. C'est-à-dire, on dit souvent que c'est un conflit entre deux nationalismes israéliens et palestiniens. Le problème, c'est que le rapport de force ne permet pas une négociation. C'est quand vous avez une négociation, il faut qu'il y ait ou des conditions internationales qui permettent de négocier, clairement, ou bien un rapport de force. Or, le rapport de force n'existe pas. C'est Israël dispose de moyens militaires, politiques, économiques...
Oui, c'est déséquilibré. En fait.
Complètement déséquilibré, donc ça ne peut rien donner. En même temps, je dirais, ça a montré qu'il pouvait y avoir, à un moment... il faut rappeler qu'en 1993, les Palestiniens, massivement, sont pour la paix. Sont pour les négociations, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une espèce de haine éternelle comme ça des Palestiniens à l'égard des Israéliens me semble pas juste.
Merci Alain Grèche, je rappelle cette bande dessinée coécrite avec Hélène Aldeguer qui a fait les dessins, hein. Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'exfiltration de Yasser Arafat à Tripoli, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'entrée difficile du Royaume-Uni dans la communauté européenne.